oui, vous avez reconnu l'indicatif, c'est Sporama qui commence. C'est Eric Maniakiza avec vous ce soir. Nous revisitons bien entendu les résultats du week-end, comptant pour le retour des Coupes d'Afrique des clubs. Il y a eu aussi la Coupe de la CAF. Nous allons voir ce qui va se passer demain en Europe. C'est la Ligue des Champions avec 4 belles affiches. Juventus contre Tottenham, FC Bâle contre Manchester City et mercredi, le grand choc Real Madrid-Paris Saint-Germain, un match très attendu. FC Porto qui va croiser le fer contre Liverpool. Eh bien, nous allons également jeter un coup d'œil à ce qui se passe en Corée du Sud. Il y a 8 pays africains qui participent à ces Jeux Olympiques d'hiver. Et sans tarder, je suis en ligne avec nos consultants sportifs. Je commence par Jules Valentin Ngwe. Jules.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Et le coup de sifflet pour commencer. Il faut siffler, hein. Il faut siffler.
Ah, ça va venir.
Ah oui. Amédine à Dakar. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Au Bénin, nous retrouvons Élisée Onkpatine. Élisée, vous êtes là?
Oui, bonsoir.
Voilà.
Je suis là Eric, bienvenue au Bénin. Et on fait parti pour 20 bonnes minutes pour parler de la Ligue des Champions en Europe.
C'est tout de suite Élisée. Amine Birouk. Bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous, bienvenue au Maroc.
Merci, et nous aurons probablement Thierry Kamboundi Kafouti qui se trouve en RDC. Voilà, on commence avec la... Ah, Élisée est déjà là. Plutôt Thierry. Thierry, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Voilà, l'équipe est au complète. On va commencer par... la Ligue des Champions en Afrique, vous allez prendre, disons, une minute pour chacun pour essayer de gagner du temps et toucher les autres sujets qui sont qui vont être objet de discussion dans cette émission. Nous aurons également des commentaires des auditeurs. Voilà, je commence par vous, Élisée, en très peu de mots.
Oui, Eric.
Qu'est-ce que vous avez retenu?
Oui, il y a eu plusieurs rencontres. Hein. C'est bien sûr le retour de la plus grande compétition des clubs hein, que l'Afrique a, il faut le dire, puisque c'est la Ligue des Champions. Et on a souvent l'habitude de voir les grands clubs du football africain représenter dûment leur pays. C'est vrai que cette année, on n'aura pas Zamalek en Ligue des Champions, puisque le club Kérot hein, n'a pas pu terminer la deuxième place, ni terminer champion de son pays, et bien remporté justement en Coupe de la CAF. Sinon, les grands du continent sont bien sûr présents. Nous allons rapidement hein, commenter, Eric, par le Bénin, puisque moi je suis au Bénin, et avec cette rencontre très, très attendue du public sportif béninois qui a mis aux prises les buffles du Parakou, l'équipe championne du Bénin. Une ville, la troisième ville du Bénin, à 4 km du Cotonou, eh bien, les Buffles recevaient l'ASEC Mimosa, l'ASEC d'Abidjan, vainqueur de cette Ligue des Champions, je rappelle, en 1998, avec cette belle génération, hein, les Gelchiré Soua, les Pieds, et Donald, les Jocelyn Akassou, qui ont dû battre les Tanzaniens de l'Union africaine pour pouvoir s'offrir ce trophée. Eh bien, les académiciens, comme on les appelle maintenant, sont venus chercher le nul, un but partout du côté du Cotonou, eh bien, malgré. Et que les locaux ont ouvert le score grâce à l'international Marcelin Coupeau, qui était d'ailleurs du côté du club africain pour passer un test qui n'a pas pu conclure. Donc, Marcelin Coupeau qui est revenu du côté de Parakou pour renforcer cette équipe de Buffles, eh bien, il a marqué le premier but. Et trois minutes ont suffi hein, pour que les visiteurs, l'équipe d'Abidjan, égalise. Et eh bien, c'est un résultat décevant pour les Béninois, l'entraîneur des buffles de Paracou, le Togolais Idriss Moutari, nous l'a confié, il a dit c'est une déception, mais tout n'est pas encore joué et que l'équipe championne du Bénin peut aller chercher sa qualification du côté de la Côte d'Ivoire, du stade Félix Oukoboaï. Mais ce sera difficile, la FEC est en très grande forme, notamment leader de ce championnat ivoirien de première division. Ça va être très difficile. Du côté de Lomé, l'AS Togo Corps qui s'est incliné du côté de Dolizy, du côté de Dolizy face à l'AS Léopard. C'est vrai, battu, mais il y a encore espoir puisque l'équipe togolaise a marqué un but en déplacement, 2-1 pour les Congolais. Tout reste ouvert dans une semaine du côté de Lomé. Et notons aussi la bonne prestation des clubs nigériens, MFM, FC qui allait chercher le but du côté de Bamako, un but partout. Et Plateau United qui a battu le champion camerounais digne 3-0. Et on peut citer ces résultats-là. Oroya qui est allé chercher la victoire 3-1 du côté de Niamey contre Aswan, l'équipe militaire du Niger. Donc voilà un peu les résultats des pays limitrophes du Bénin. Le Bénin est un pays limitrophe. Amédine qui pourra parler de ce succès de Génération Foot 2-0 devant El Makata, cette jeune équipe dont la majorité d'âge est de 19 ans. Amédine va le continuer. Seul le capitaine a de 8 ans. Sinon, c'est une très jeune équipe qui a su se batailler très fort pour chercher la victoire des 2-0 du côté de Dakar.
Thierry, l'AS Vita Club n'a pas eu de difficulté pour battre les Malawites de Wanderers.
Tout à fait. Hein. Le club s'est promené pratiquement au stade des Martyrs hier après-midi face à une formation qui ne l'a pas du tout inquiété. 3 buts inscrits en première période sur des attaques placées par une formation de V-Club très bien préparée qui a acquis un centre et qui travaille dans son centre cette saison. Et ça profite bien évidemment au jeu de l'AS V-Club qui a régalé le public hier. V-Club qui a un tout petit peu souffert en début de seconde période suite au changement tactique opéré par l'entraîneur de cette formation malawite, mais très vite qui est revenu dans le match en inscrivant notamment ce 4e but à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. Mais Florent Ibenge n'était pas très très content car il a estimé à raison que sa formation aurait pu en mettre 5, 6 voire 10, une curieuse occasion manquée par les joueurs de V-Club qui se sont quand même créer un matelas d'écart assez important, d'assurance assez important avant le match retour prévu dans 10 jours à Blantyre. L'adversaire n'était pas forcément à la hauteur de cette formation de Kinshasa qui nourrit de grandes ambitions avec son entraîneur Florent Ibenge cette saison. Florent Ibenge qui en est à sa 6e saison d'affilée à la tête du staff technique de l'association sportive.
Une victoire donc facile de Vita Club Thierry. Il y a aussi l'entraîneur de Génération Foot, Olivier Perrin, qui s'est réjoui de la victoire dans une équipe 2-0 obtenue samedi à Dakar, un match aller des préliminaires de la Ligue des Champions. Mais il estime que la qualification est loin d'être acquise. On l'écoute.
C'était pas évident dans la mi-temps, quand on avait vu la première mi-temps, d'être capable de remporter ce match 2-0. C'est une belle réussite parce que l'adversaire connaissait à fin de compte très bien nos points forts. Ils ont réussi à les contrecarrer en première mi-temps. On a corrigé un peu à la mi-temps tactiquement et puis on leur a dit voilà, le match il se gagne pas qu'en jouant bien des fois. Il fallait peut-être des fois allonger un tout petit peu plus parce qu'on savait qu'ils étaient un peu lents derrière. Et sur la deuxième mi-temps, j'ai trouvé que physiquement on était de plus en plus fort et que leur bloc s'est distendu beaucoup. Et on a eu beaucoup plus de solutions de jeu à l'intérieur et beaucoup plus de solutions de jeu dans le dos, de solutions de jeu dans le dos de la défense. On va essayer de marquer au match retour. Il faudra marquer au match retour. Si on marque pas au match retour, on sera éliminé. J'en suis convaincu. Donc, on n'a pas une petite équipe en face de nous. Par contre, c'est une équipe sur 24 matchs. 19 fois, ils ont pris des buts. Encore aujourd'hui. Donc, on a 25 matchs, 20 fois. Donc, moi, je pense qu'il faut marquer. Je reste convaincu qu'il faut marquer des buts. Si on marque au moins un but au match retour, calculez-vous-même. Déjà, il faut qu'ils nous en marquent 4. Donc, pour moi, c'est clair. Marquer un but à l'extérieur, ce sera la gage de notre réussite. Et si possible, le premier but du match, ce serait parfait.
Amédine, si.
Oui, Eric, comme vous l'avez entendu tantôt, l'entraîneur Olivier Perrin a raison, hein, puisque les académiciens qui ont soutenu les Égyptiens de Nice El Makata, 2-0, ont construit ce succès en deux temps. qui m'aurait en première période où ils ont commis beaucoup de fautes inutiles. Hein. 11 au total, les hommes dans l'intérêt sont revenus en seconde période en force grâce à Sabali et à Nidia. Ces deux joueurs ont permis quand même à cette équipe du Sénégal d'inscrire d'abord le premier but à la 54e, puis le deuxième à la 75e minute. Il faut dire que cette victoire des Sénégalais, il faut remonter très loin, hein, puisque depuis 3 ans, une équipe sénégalaise n'avait jamais gagné en Ligue des Champions. C'est une victoire à deux sens. Non seulement Génération Foot va entreprendre la masse de tour avec ce but, mais elle permet au football sénégalais de revenir avec la victoire en Ligue des Champions. En effet, cela faisait 3 ans et que l'équipe sénégalaise courait derrière un succès dans cette compétition. La dernière victoire en date remonte en 2015. Avec cette équipe, c'était devant l'étoile filante de Ouagadougou, 1-0 au tour préliminaire. Il y avait Goré, il y avait la douane qui s'était fait sortir en 2016 et 2017. Donc, Génération Foot se déclare pas dans 2 semaines en Égypte pour négocier la seconde manche, une mission qui sera difficile et pas impossible pour les Sénégalais de Génération Foot et l'histoire.
Gilles, vous avez suivi ce qui s'est passé sans toutefois revenir sur les scores ou les résultats. Tactiquement, quelle est l'équipe qui séduit le plus?
Oui, mais il faut d'abord savoir que c'est une mise en train. Et le plus souvent, les premiers matchs de ces deux compétitions africaines commencent toujours un peu comme des voitures diesel. Et en fin de compte, c'est à partir de la phase de poule qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Je crois que là, les grosses équipes se replacent. Il manque de réalisme, surtout dans la finition des actions. Mais l'intérêt de la compétition est entier, surtout qu'après le succès sportif du CHAN de cette année, qui a montré que les joueurs jouant sur le territoire arrivent sur les talons des professionnels à une vitesse grand V. Donc tout le monde est vraiment impliqué pour l'organisation des compétitions continentales.
Amine.
Je rajouterai aussi qu'à l'exception peut-être de la victoire du club marocain d'El Jadida sur Benfica Bissau 10-0, qui est quand même un record quasiment dans la compétition, on n'a pas vu de gros scores. Peut-être une exception peut-être la victoire des Botswanais de Township Rollers sur un vieux routier de la compétition africaine, qui sont les Soudanais d'El Merrir sur le score de 3-0, qui reste une surprise assez relative, étant donné que les Soudanais ont pour habitude de bien se comporter dans la compétition. El Merrir sont des épouvantails souvent dans la Ligue des Champions ou en Coupe de la CAF. Et là, véritablement, on voit l'émergence de nouveaux football. On voit la confirmation du football zambien avec Zanasco et Zesco. On voit que le football d'Afrique australe est en train de se consolider. Et puis, bien évidemment, il y a quelques équipes qui ont du mal à trouver leur repère dans ce premier tour, dans ce tour préliminaire. Cas de l'Espérance de Tunis qui a été obligée de faire match nul en Mauritanie face à l'équipe de Concorde sur le score d'un but partout. C'est une surprise relative, mais on attendra les matchs retour dans une dizaine de jours pour avoir, un plus grand aperçu sur les forces en présence en attendant l'entrée en liste des autres ténors qui ont été exemptés de ce tour préliminaire.
Oui, Amine, dans le temps, nous avons vu de grands talents, de grands noms de footballeurs africains. Est-ce que vous pensez que le football actuel, les matchs qu'on regarde, est-ce que ça... Vous pensez que ça pourrait offrir les noms qu'on a connus, qui ont fait la gloire du foot sur le continent?
Il faudrait quand même revaloriser le produit local. Le CHAN a été une occasion pour le mettre en première ligne. Je pense que l'arrivée de centres de formation, d'un travail plus spécifique, d'un travail plus scientifique, va nous permettre d'avoir des talents. On est loin des générations spontanées qui avaient les espaces, qui avaient les terrains vagues pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, avec l'urbanisation, on en est à se retrouver dans un football cadré, dans un football scientifique. Il faut adopter ces méthodes sans pour autant perdre sa spécificité. La spécificité du joueur africain, c'est de la technique. technique, c'est de l'explosivité, c'est de la vitesse, c'est de l'imagination. Il ne faut pas avoir un joueur sur le même moule que le joueur européen. Il doit garder ses qualités propres et bien évidemment les mettre au service du collectif. Aujourd'hui, dans le football des clubs en Afrique, il y a un travail de longue haleine qui doit être effectué pour pouvoir retrouver un football qui exporte les grands joueurs vers le continent européen. Le CHAN, les compétitions africaines sont une belle vitrine pour les clubs, sont une belle vitrine pour les joueurs. Encore faudrait-il qu'ils puissent être conscients de l'importance de l'enjeu et de l'importance pour leur carrière de ce type de compétition.
Voilà, restez en ligne. On va maintenant aborder la Ligue des Champions en Europe, l'UEFA. Nous avons un auditeur, c'est Brahima Doumbia qui voudrait dire un mot. Brahima, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous les deux de la VOA.
Je vous écoute.
Effectivement, la Ligue des Champions s'annonce très chaud, surtout le match Real Paris Saint-Germain que j'aimerais un peu commenter. Je pense que le Paris Saint-Germain est en pleine forme, surtout vu sa position en Ligue 1. Le Real, c'est vrai, nous partons de mon point de vue en position défavorable de mon point de vue, mais je pense que le Real quand même a tous les atouts nécessaires, surtout vu la triplée de Chris lors du dernier match. Je pense que le Real quand même pourra relever le défi, surtout à domicile, en battant cette équipe à l'aller, peut-être de mon point de vue 1-0 ou 2-0.
Merci Brahima pour votre commentaire. Jules, vous partagez cet avis de Brahima?
Mais je pense que c'est un peu aller vite en besogne parce que nous avons ici deux équipes qui jouent pratiquement dans la même posture tactique en s'adossant sur des blocs défensifs très hermétiques et en se projetant vers l'attaque par des flèches fulgurantes. Mais dans ce jeu-là également, le fait que leurs joueurs de couloir soient absorbés parfois dans le jeu offensif peut les exposer quand ils jouent à domicile. Donc je crois qu'à ce niveau, le Paris Saint-Germain part avec une chance d'inverser la tendance contre le Real à Bernabeu, parce que Carvajal et Marcelo seront pratiquement attirés vers l'avant et Paris aime ce genre de disposition. Donc attention, ce match qui est très décisif, c'est le match aller, peut apporter peut-être la première surprise de ces huitièmes de finale.
Thierry, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, demain c'est Juventus-Tottenham et mercredi Paris-Saint-Germain-Real Madrid. Le Real peut quand même toujours surprendre.
Ah oui, le Real peut surprendre, surtout que le Real est dans sa compétition favorite. Je ne veux pas retracer ici l'élogieux et unique parcours de la Maison Blanche en Champions League. Ces joueurs de Zinedine Zidane sont conscients qu'ils ont perdu la Liga, ils ont été de la foi, donc il ne leur reste plus que la Champions League. Ils doivent se donner à fond, ils ont dit, ils l'ont rappelé depuis hier, et ils se sont fait confiance, hein. Ils se sont mis en confiance, on va dire, avec cette victoire 5-2 face à la Real Sociedad en championnat avec un Ronaldo qui ne marque pas beaucoup. C'est quelque chose de très bon pour eux. Parlant du match Juve-Tottenham, c'est également face à deux formations qui sont bien au championnat. C'est vrai que la Juve a démarré timidement, a raté quelques matchs, raison pour laquelle elle n'est pas leader dans son championnat, dominé la Serie A, donc je voulais dire par le Napoli pour le moment. C'est également une équipe de grands rendez-vous. Hein. C'est le finaliste, n'oubliez pas, de la précédente édition. Donc, ça s'annonce très bien face à une formation de Tottenham qui sort également d'une victoire lors d'un derby face à Arsenal le week-end dernier. Donc, ça s'annonce des très, très, très belles affiches qu'on attendait tous, d'ailleurs, et que ces équipes sont censées avoir bien préparées.
Élisée, vous avez suivi. Quels sont vos pronostics?
Ça va être un match très difficile, hein, Eric, des deux côtés. C'est vrai que Paris Saint-Germain affiche une avance, hein, sur le Real Madrid. Mais n'oublions pas que chaque fois que le Real joue face à de grosses équipes, hein, du Tourette en Liga, le Real est sorti vainqueur. Hein. C'est vrai que le FC Barcelone est venu battre du côté de Bernabéu, mais face à Séville, Valence,
Sociedad, même à l'Atlético Madrid où le match est soldé par les Madrilènes, les Merengues, j'allais dire, ont rigoureusement dominé le match. Ça va être un match très difficile. Le Real a commencé par se retrouver tout petit peu. C'est vrai que sur deux matchs, hein, c'est une équipe qui est capable du pire, hein, du meilleur que du pire. Mais le samedi dernier, face à Sociedad, on a vu une équipe se transcender hein, pour aller en attaque, marquer beaucoup de buts, surtout Cristiano et Ronaldo, en tant que but retrouvé. Et le Paris Saint-Germain, c'est vrai, il y a déjà un bon effectif, mais attention, il ne reste que cette compétition pour le Real Madrid, il ne reste que la Ligue des Champions, et conscient de l'enjeu, eh bien, les Madrilènes hein, peuvent aller chercher ne serait-ce cette victoire pour se consoler, mais attention à cette équipe parisienne qui a souvent marqué un but à chaque rencontre.
Amédine,
il ne faut pas oublier que le Real, Eric, et double tenant du titre, hein. C'est vrai que le Paris Saint-Germain est d'une prestation de premier rang sur la scène européenne depuis le début de l'ère catholique, mais ce sera une mission difficile parce que les Madrilènes connaissent très bien cette compétition. La preuve, les Espagnols ont eu à atteindre au moins les demi-finales lors des sept dernières éditions. Donc c'est une équipe expérimentée qui sera en face des Parisiens. C'est vrai qu'en championnat, ce n'est pas ça, mais le Real reste le Real. Le Paris qui caracole au niveau du championnat français tentera une nouvelle fois sur son Brésilien. Neymar s'était appris d'or depuis l'été dernier pour passer ce cap européen. Mais attention, encore une fois, attention, le Real reste le Real et le Paris Saint-Germain, je pense que sera un outsider face à ce Real de Madrid, débutant du titre Eric.
Amine, si vous seriez l'entraîneur du PSG ou du Real, quel serait votre choix tactique? Que faut-il éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Du côté du Real, déjà une absence de Max, celle de Carvajal qui est suspendu pour le match, donc il devrait mettre Nacho sur le côté pour marquer Neymar. Le duel à suivre, c'est bien sûr Mbappé contre Marcelo, et puis on verra si le Real Madrid va revenir un 4-3-3 avec la fameuse BBC, Bale, Benzema, Ronaldo. Bale et Benzema qui sont très critiqués à Madrid, Ronaldo qui a retrouvé le chemin défilé. Du côté de Paris, on devrait certainement calquer ce même style de jeu. Quand on a trois flèches comme Cavani, Mbappé et Neymar, on ne peut pas véritablement en laisser un sur le banc de touche. Celui qui risque d'être sur le carreau, c'est Di Maria. Et la bataille, le gagnant de la bataille du milieu de terrain prendra certainement une option. Paris doit franchir un palier pour grandir. Le Real Madrid doit défendre son lustre, sa gloire et ses deux titres européens consécutifs. Ce sera du suspense pendant ce match aller. Et puis tout risque de se décider au Parc des Princes le 6 mars prochain.
Christian Djerabé, il est à N'Djamena. Christian, en 30 secondes.
Oui, ça serait une rencontre très vraiment difficile pour le Real Madrid parce que nous avons Neymar et Cavani qui vont créer des troubles au niveau du Real Madrid. Donc, il faudrait que Paris Saint-Germain puisse battre le Real Madrid. Ça, c'est mon pronostic.
Merci à Christian Djerabé. L'Afrique du Sud, l'Érythrée, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Maroc, le Nigeria, le Togo participent aux JO en Corée du Sud. Amine.
Une participation pour deux skieurs, c'est le respect des principes de Pierre de Coubertin. L'important est de participer. Je suppose que c'est le même cas pour toutes les nations africaines. Nous n'avons pas une tradition sur les sports, que ce soit le ski de fond, c'est-à-dire les sports nordiques ou le ski alpin. Il va falloir bien évidemment garder en tête que c'est dans ce domaine des sports d'hiver où il va falloir véritablement progresser, parce qu'il va falloir passer un palier lors des prochains JO. Bien évidemment, l'important est de participer, c'est une règle. Le respect des règles de l'olympisme en est une autre. Que le spectacle continue à Pyeongchang en Corée du Sud.
Amédine, en 15 secondes.
Oui, bon, vous savez que ces jeux pour nous, Africains du Sud-Saharien, c'est un peu difficile pour nous, mais l'essentiel, c'est de bien représenter quand même l'Afrique. C'est vrai, comme l'a dit Amine Birouk, comme le disait le baron de Coubertin, il faut participer.
Élisée, en 10 secondes. En 10 secondes, Élisée. Allez-y, en 10 secondes.
Oui, je disais tantôt que ce sera de très belles affiches, hein, demain et mercredi.
Merci, merci. Kambundi Thierry, Thierry, en 12 secondes. Thierry, ah, je ne l'ai pas. Jules, Jules, vous avez le coup de sifflet final.
Ok. En tout cas, les Jeux Olympiques nous régalent maintenant et on découvre, ma foi, pour ceux qui ne les ont jamais regardés, certaines compétitions originales.
Merci Amine, merci Jules, merci Amédine, merci Élisée, merci à Thierry Kambundi. Eric Manilakiza vous souhaite une agréable soirée.